Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA 101.7 et 107.5 FM, également sur internet www.rdwa.fr. Parlons de la LPO avec Gilbert, son président, qu'on ne présente plus à l'antenne. Vous devenez un habitué, quoi.
Alors, je ne suis plus président maintenant.
Ah,
j'ai passé la main, enfin, j'ai arrêté d'être... corvéable, à merci.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant?
Je suis vice-président quand même.
Voilà, ouais. Voilà.
Donc, voilà. C'est bien que d'autres prennent un peu les affaires en main.
Oui. Alors, rappelez-nous peut-être aux auditrices, auditeurs qui découvrent tout d'un coup qu'est-ce que la LPO, Ligue de protection des oiseaux, c'est son nom, agit au national. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire rapidement pour nous la représenter?
Voilà, ben, en fait, la LPO, je ne sais pas s'il faut la présenter encore, mais c'est vrai que c'est la Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité. Ne pas oublier la biodiversité, parce que ça, on s'occupe pas que des oiseaux, mais de plein d'autres choses, les mammifères, les reptiles, amphibiens, les insectes maintenant, les libellules, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus vaste que les oiseaux. Et en plus, on s'occupe aussi des milieux, parce que... sans milieu, les oiseaux, comme les autres faunes sauvages, ne peuvent pas vivre, évidemment.
Donc, on parle de milieu de type milieu aquatique, dont vous avez la gestion, les zones Natura 2000.
Voilà, donc, pour les chauves-souris, on a une gestion d'une grotte en collaboration avec l'Office national des forêts, l'ONF. Mais c'est vraiment très diversifié. On a plein de spécialistes, justement, dans notre association qui s'occupe très bien de tout ça. Quoi.
Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il fait chaud.
Oui, je confirme, il fait chaud.
Je goûte derrière le studio, on a laissé la fenêtre ouverte, ça fera un peu de vent. Ouais. Si vous entendez de l'air, c'est pour ça. Il fait chaud et donc à la LPO, il y a des alarmes ou des vigilances à avoir.
Oui, donc, tout le monde le voit, le sent, on le ressent, il fait chaud. Et donc, il y a des problèmes aussi pour la faune sauvage, pas que pour nous, évidemment. Et il y a un déclin des espèces qui sont plutôt nordiques et une avancée des espèces qui sont plutôt méditerranéennes, qu'on trouvait plutôt dans le pourtour méditerranéen et qui remontent tout doucement.
Quelques exemples visibles.
Le bruant des roseaux qui peut revenir. Il y a le bruant zizi qui augmente aussi au détriment des autres espèces. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelques espèces qui augmentent qu'il faut être rassuré. Ce n'est peut-être pas très normal, en fait, si on peut appeler ça avec les espèces. Les espèces nordiques comme... l'agopède des Alpes, par exemple, étant pratiquement disparu de la Drôme. Le tétralyre est en fort déclin aussi. Et puis, il y a des espèces qui sont... Oh, pardon.
Il y a un pivert dans votre sac. Des espèces comme le pivert.
Voilà. Donc là, par contre, les pics sont plutôt en augmentation, quoi, parce qu'il y a plus de forêts, donc plus d'endroits pour... et plus de nourriture aussi. C'est pas le pic vert, c'est le pic épêche. En fait, le pic vert, il ne tambourine pratiquement jamais.
On imagine que suivent finalement avec ces oiseaux tout ce qu'ils mangent aussi.
Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que tous les insectivores, comme son leur nom s'indique, mangent des insectes en très grande partie. Et donc, lorsqu'on met des pesticides, des insecticides, eh ben évidemment, ils ont moins à manger, ils peuvent moins se reproduire. Et ça, c'est une autre cause de déclin des oiseaux, en général. Le moineau friquet, par exemple, qui est très, très courant il y a une vingtaine, trentaine d'années, est pratiquement disparu de la Drôme. Il y en a très, très peu. En France, on estime qu'il y a 60% de ces moineaux qui ont disparu, quoi. Donc c'est très important. Et c'est pas compensé par autre chose, hein. C'est simplement une perte nette de biodiversité. Il y a le réchauffement climatique, on le ressent, mais il y a plein d'autres choses, hein. C'est diversifié. Les causes sont diverses. Il y a, par exemple, pour les hirondelles, les martinets, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la restauration des façades font que les nids sont détruits. Et donc, c'est une perte aussi d'habitat pour de nidification pour les hirondelles, surtout les hirondelles de fenêtre, d'ailleurs.
Et vous nous parliez de cette canicule. Comment est-ce qu'on peut, nous, agir, tout un chacun? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Là, c'est peut-être plus global que ça, pour le réchauffement. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire localement, à part, évidemment, essayer de protéger les espèces qui sont tombées du nid ou qui sont nidifuges aussi, qui sont peut-être qui ont un problème de survie, quoi, en fait, simplement. C'est pour ça que pour les martinets qui tombent du nid, on va peut-être en reparler avec la personne.
Adrien Corsi, qu'on va appeler dans quelques instants.
Voilà, donc là, il faut les récupérer, avertir un centre de soins. Et puis, c'est une espèce protégée, donc il faut faire très attention. Hein. Il y a une réglementation à respecter aussi. Mais en téléphonant à un centre de soins, on peut récupérer ces espèces, ces martinets, ces hirondelles, et les porter au centre de soins, ou alors les remettre dans le nid si on peut, quoi. Le mieux, c'est de remettre dans le nid, hein, d'ailleurs.
Ouais, les nids d'hirondelles, c'est pas facile à atteindre. Hein.
Voilà, donc ça, c'est un gros problème. Il y en a qui sont plus faciles, hein. J'en connais qui sont à portée de main, mais enfin, la plupart du temps, c'est en haut des façades, évidemment.
Adrien ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Adrien Corsi. Alors, vous êtes soigneur pour la LPO. Je suis avec Gilbert David, hein, vice-président maintenant de cette LPO Drôme. Et on a commencé un petit peu à parler de chaleur, de canicule, tout ça. Alors on aimerait bien avoir un petit peu, savoir ce que vous faites. Quel est votre travail? Vous êtes soigneur?
Je gère le centre de soins de la LPO de Clermont-Ferrand, où du coup on réceptionne donc tous les oiseaux blessés, de manière à pouvoir les remettre d'aplomb et espérer les relâcher dans la nature.
À Clermont-Ferrand?
C'est ça, oui.
Alors, donc, quand on trouve un oiseau dans le Diois, il part à Clermont?
Un oiseau dans la Drôme, donc non, c'est collègues du centre de soins de l'Hirondelle qui gèrent du coup toute la zone Drôme-Ardèche-Rhône-Loire.
Ouais, c'est à Saint-Forgeux, c'est au nord de Lyon quand même, hein. C'est pas tout à fait à côté.
Alors, non. En quoi consiste ce travail de soigneur?
Le travail de soigneur, c'est déjà être un peu couteau suisse, puisque généralement le soigneur... Donc la fonction de base va être forcément de faire les premiers soins, d'établir déjà un premier diagnostic, permettre de faire un tri pour ceux qui doivent aller chez le vétérinaire ou pas. Ensuite, il va y avoir toute la partie accueil et téléphone, dans lequel on va réceptionner tous les appels d'animaux en détresse qui permettent justement de donner des conseils dès qu'un animal en fait est blessé, et pouvoir orienter la personne soit vers le centre de soins adapté, soit aussi vers comment replacer l'animal dans la nature, parce que souvent il y a des oiseaux qui sortent du nid sans être forcément abandonnés ou en détresse, et du coup juste les laisser auprès de leurs parents pour que la nature suive son cours. Et puis bien sûr, après toutes les tâches quotidiennes d'un soigneur, que sont le nettoyage, le bricolage, qui malheureusement font partie intégrante du boulot.
Et donc, pour un particulier, trouver un oiseau, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut soi-même le remettre dans le nid, on vous appelle, comment ça se passe?
Alors, le mieux, c'est si l'oisillon n'est pas blessé, qu'il est vif, mais qu'il n'est pas plumé, par exemple, et qu'on sait où est le nid, on peut le replacer. Il n'y a pas de problème au niveau de l'odeur, comme on pourrait croire, qui est une légende urbaine. On peut toucher un oiseau et le replacer auprès de ses parents. Les oiseaux s'en fichent. Par contre, il faut arriver à définir si jamais l'oiseau est blessé. Et à ce moment-là, il faut contacter à tout prix un centre de sauvegarde. Si c'est un jeune oisillon, mais qu'il est blessé, il faut quand même le récupérer, parce que malheureusement, même si les parents s'en occuperont, si la blessure n'est pas prise en charge, il risque de ne pas pouvoir voler ou de mourir d'autres choses. Et surtout, laisser l'oiseau au calme, alors au chaud, donc là, avec la canicule, c'est toujours un peu particulier, mais on met quand même l'accent sur le fait que même les oisillons en pleine canicule peuvent malheureusement mourir de froid si, une fois la nuit tombée, quand les températures chutent, il n'est pas mis dans une petite boîte avec un tissu et une bouillotte. On a quand même malheureusement des oisillons qui meurent de froid, même en pleine canicule, à cause de ça. Et après, dès que l'oiseau est stabilisé, on ne lui donne pas forcément de l'eau ou de la nourriture, comme quand on trouve une personne sur le bord de la route qui est blessée ou autre, on ne va pas lui donner à manger, on ne va pas lui donner à boire tout de suite, on va le mettre au calme, on va attendre les secours. Là, c'est la même chose. On va contacter le centre de sauvegarde, ou à minima, si on n'arrivait pas à l'avoir, on va sur le site internet de son centre préférant, de manière à avoir des conseils adaptés. Et malheureusement, on a aussi beaucoup d'accueils avec des oiseaux dans des états assez tristes, parce que les personnes sont allées chercher des informations sur les réseaux sociaux ou internet, et tombent sur des conseils complètement loufoques et souvent dangereux.
Comme bien souvent sur Internet, c'est bien de le rappeler. On a commencé avec Gilbert à parler un peu de cette canicule. Quels sont les bons gestes à avoir pendant cette canicule pour la sauvegarde des espèces, des oiseaux en particulier, bien sûr, mais du reste de la biodiversité?
De manière générale, c'est déjà éviter de couper à tout va ces haies, ces arbres, etc. Il faut essayer d'offrir un maximum d'ombrage aux animaux, de manière aussi à ce que ça génère des îlots de fraîcheur dans lesquels les animaux pourront se reposer. Et puis bien sûr, mettre à disposition de l'eau claire qu'il faut changer tous les jours, puisque forcément, avec une forte chaleur, l'évaporation des quelques points d'eau qu'on peut trouver disparaissent, qu'au moins en leur offrant ça, ils peuvent s'hydrater et supporter beaucoup mieux la température jusqu'à ce que ça se calme.
Oui, il est très important de changer l'eau parce que ça évite la propagation des maladies aussi. Lorsqu'ils se baignent dans l'eau, hein, on voit couramment des oiseaux, des passereaux se baigner. Et donc, pour éviter la propagation de ces maladies, il vaut mieux changer l'eau tous les jours. Mm-hmm. Alors, c'est pas la peine de mettre un grand bac, hein, c'est juste un petit récipient, ça suffit. Et puis ça évite aussi le moustique tigre.
Ah bah oui, voilà, parce que faire stagner un peu d'eau, c'est toujours sympa. Ouais. Hein. Pour le moustique, ouais, en effet. On a parlé aussi tout à l'heure des hirondelles. Gilbert, vous avez commencé à nous dire que voilà, il y avait un problème de destruction parfois de leurs habitats quand il y a des réfections de maisons, de façades.
De façades, oui.
Voilà, alors, comment on les aide un peu ces hirondelles là maintenant?
Alors maintenant, on préconise, ça s'est déjà fait à plusieurs endroits, à Cré, à Saillant, de poser des nichoirs artificiels qui sont conçus par l'LPO aussi, hein, enfin avec les conseils de l'LPO en tout cas. Et donc, lorsqu'on refait des façades, si on est sensible à cet aspect-là des choses, c'est d'installer des nichoirs à hirondelles, surtout les hirondelles de fenêtre. Hein.
Qui peut être bien en même temps aussi à faire, c'est quand on installe les nichoirs à hirondelles, pas hésiter à poser directement aussi une petite planchette de récupération des fientes pour éviter du coup d'avoir les fientes qui tombent directement devant chez soi ou autre. Comme ça, ça permet que tout le monde vive en harmonie, puisque souvent c'est les fientes qui font qu'il y ait des destructions de nids, et alors qu'une petite planchette, le problème est réglé.
Et ces nids d'hirondelles, en tout cas ceux qu'on voit nous dans la Drôme, ils sont accrochés, je ne sais plus comment ça s'appelle là, en haut des toitures.
Génoises.
Aux génoises, voilà, des toitures, ils sont faits en terre. En quoi sont faits les nichoirs de la LPO?
Alors c'est un matériau un composite un peu, mais qui est aussi solide, sinon plus quand même qu'un nid d'hirondelle.
Et qui reproduit cette
qui
forme.
Qui reproduit vraiment cette forme. J'en ai à la maison encore un qu'on va poser bientôt. Donc c'est vraiment particulier. Hein. C'est pas un nichoir avec quatre planches. voilà. Par contre, ce que je voulais revenir aussi, c'est sur les oiseaux qu'on peut trouver par terre et qui ne sont pas du tout abandonnés. C'est par exemple le petit duc. Moi, tous les ans, on me ramène des petits ducs. Et ce que je fais, c'est s'ils l'ont pris il n'y a pas longtemps, on le remet tout de suite l'endroit où ils les ont récupérés. Alors, si possible, en dehors de la portée des chats et des voitures, parce que c'est évidemment, il ne faut pas qu'ils se fassent écraser. Mais le petit duc en particulier, il est nid diffuge, c'est-à-dire qu'il quitte le nid alors qu'il ne s'est pas encore volé. Par contre, les parents le nourrissent encore, donc c'est important de le laisser dans un endroit proche où on l'a trouvé et de ne pas...
Même on le trouve, on le laisse alors.
Voilà, enfin s'il n'est pas au milieu de la route, hein. Mais autrement le mettre dans un arbre hors portée un peu des chats. Mais voilà, surtout il faut le laisser tranquille, les parents s'en occuperont bien mieux que nous.
Et vous nous parliez aussi tout à l'heure, Gilbert, du martinet. Alors lui, par contre, c'est un peu particulier, il faut y faire particulièrement attention. Peut-être Adrien, peut-être.
Alors, le martinet, effectivement, contrairement au petit duxcope, lui, il ne fait pas du tout son émancipation au sol. Les martinets, dès qu'ils sont opérationnels, dès qu'ils sortent du nid, ils sont censés voler. Et là, malheureusement, effectivement, avec les canicules donc qui sont de plus en plus fréquentes, les nids se transforment souvent en fournaise. Donc, il n'est pas rare, après des gros épisodes de chaleur, même pendant juste une journée, hein, où les martinets qui font leur nid souvent sous les toits, sous les combles, sous les tuiles, quand ça se transforme en véritable fournaise, le petit martinet se rapproche du bord et tombe au sol. Donc là, malheureusement, il n'y a qu'une seule solution, c'est le centre de sauvegarde, puisque les nids étant souvent très hauts, ils sont impossibles à replacer directement dans le nid. Si on avait une grande échelle, ça serait possible, mais en soi, on n'a pas ces moyens techniques-là. Donc, à part l'emmener à un centre de sauvegarde pour qu'il puisse le nourrir avec une alimentation adaptée, proche de son régime de base, hein, à base d'insectes, c'est la seule solution qu'il y a pour eux, quoi qu'il arrive.
Bon, voilà, pas moyen de... Ouais. Sinon, il meurt au sol, quoi.
Sinon, enfin, il est condamné, puisque du coup, voilà, les martinets, comme ils ne se posent jamais au sol, forcément, les parents ne s'en occuperont pas. On peut avoir le cas aussi avec les hirondelles de fenêtre et aussi malheureusement avec les moineaux. Si ce n'est que les moineaux, eux, par contre, les parents s'en occupent en dehors du nid quand l'oisillon est un petit peu plumé. Et pareil, donc s'émancipe et commence à explorer un peu les alentours. Mais pareil, souvent avec la chaleur, les oisillons avec très peu de plumes sortent déjà du nid et ils se retrouvent au sol. Et là, pareil, c'est soit on le remet dans le nid, soit on l'amène en centre de sauvegarde. Donc là, à ce moment-là, de toute façon, dans tous les cas, on met l'oisillon dans une petite boîte au calme, dans un endroit tempéré. On n'essaie pas de lui donner à boire de force ou quoi que ce soit. Si vraiment il fait très chaud, on peut lui faire glisser quelques gouttes d'eau sur la pointe du bec. Mais on ne le force pas et on appelle un centre de sauvegarde pour avoir les conseils adaptés. Ou on va sur le site.
Pour les moineaux, souvent on peut retrouver, s'il y a des nichoirs, les moineaux fréquentent bien les nichoirs. On peut remettre dans le nid, il n'y a pas de problème. Les oiseaux n'ont pas d'odorat ou très peu. Donc, ça pose aucun problème de les remettre là où on.
Où ils ah sont, oui, bah, de toute façon, si le nichoir est atteignable, de toute façon, ouais. Le conseil de base, hein, c'est toujours ça. On peut remettre tant qu'ils le sont. Malheureusement, en tout cas, nous ici à Clermont, en pleine ville, comme c'est souvent aussi beaucoup sous les toits et les combles, voilà, les moineaux, on n'a aucune possibilité de les replacer, malheureusement.
Est-ce qu'il faudrait inciter un petit peu plus les pouvoirs publics et les particuliers à isoler leur toiture pour lutter contre le réchauffement des combles et le bien-être des oiseaux?
Disons qu'il faudrait surtout des nichoirs et surtout une réflexion sur l'architecture où on peut installer des cavités qui permettent justement aux animaux de nicher sans pour autant être dans quelque chose qui devient une véritable fournaise, qui permette aussi bien une bonne aération que, on va dire, les isoler quand même aussi du froid à contrario. Donc voilà, c'est surtout sur cet aspect-là qu'il faudrait essayer de réfléchir à l'architecture pour leur offrir des lieux adaptés, quoi.
Oui, n'importe comment, c'est toujours bien d'isoler les bâtiments pour simplement lutter contre le réchauffement.
Non.
Du bâtiment en question, oui, bien sûr. Non, mais blague à part, qu'est-ce que concrètement on peut faire? Là, je lis sur la petite fiche que j'ai trouvée par rapport à notamment votre activité de soigneur et puis de ces centres. Voilà, c'est plus de 50 000 oiseaux accueillis quand même depuis 1985 que en gros, grosso modo, ces centres de soins existent. Est-ce que on peut faire quelque chose? Vous parliez d'architecture tout à l'heure, Adrien, mais aussi peut-être encore autre chose que les gens devraient pouvoir faire facilement, accessible aux particuliers, à la campagne comme en ville, pour maintenir comme ça son vivier, sa biodiversité locale?
Voilà, de toute façon, là, il n'y a pas de secret. Hein. On reste sur avoir, si on a un jardin, essayer de le garder, de garder plein de coins sauvages qui soient un peu non entretenus. Préférer planter voilà un maximum de variétés locales de haies d'arbres ou qui peuvent produire des fruits, que ce soit des fruits au niveau de l'été, mais aussi des fruits persistants jusque dans l'hiver, pour qu'ils puissent aussi se nourrir de manière naturelle au-delà de les donner à la mangeoire, leur offrir justement en laissant des choses vivre tout seuls, des arbres morts ou autres dans lesquels ils peuvent aussi bien se nourrir que nicher pour certains, et après de manière artificielle, effectivement on peut mettre des nichoirs, que ce soit des nichoirs d'hirondelles, de moineaux ou autres, de manière à ce que vraiment ils aient des lieux fixes et solides dans lesquels ils peuvent revenir chaque année. Et puis après, voilà, de manière plus artificielle, on peut aider un petit peu l'hiver, à condition que ça soit bien fait et bien encadré aussi au niveau hygiène, puisque malheureusement, avec le réchauffement climatique, il y a aussi pas mal de bactéries et autres qui peuvent revenir au niveau de la mangeoire et l'hygiène peut s'en retrouver compromise. Donc il faut aussi faire très attention à trop intervenir, ça peut avoir des conséquences aussi.
Oui, vaut mieux donner des tournesols bio que... il y a une étude anglaise qui a été faite là-dessus, sur le nourrissage. On pourrait peut-être refaire une émission là-dessus parce que ça peut être intéressant.
Et puis, je voulais noter quand même que là, on a beaucoup parlé de la canicule ou des situations climatiques un peu exceptionnelles. Bon, l'hiver très froid, évidemment, mais là, précisément, des étés très chauds. Mais finalement, beaucoup d'espèces d'oiseaux recueillies dans ces centres le sont par confrontation directe avec l'activité humaine. Voilà, on pense aux électrifications sur les lignes haute tension ou les chocs avec les véhicules. Est-ce que là aussi, il y aurait des pratiques à changer, des choses à penser?
Alors oui, il y a pas mal de choses à faire, hein, puisque la plus grosse cause d'accueil qu'on peut avoir en centre de sauvegarde, souvent, c'est le ramassage justement intempestif des juvéniles. Donc comme on l'a déjà pas mal expliqué, hein, le fait de ramasser les jeunes alors qu'ils ne sont pas en détresse, c'est malheureusement une grosse cause d'accueil en centre. Après, en cause plus directe, malheureusement, nous avons le chat qui prédate énormément d'oiseaux. Donc là, c'est pareil, c'est aménager son jardin pour que les oiseaux à la mangeoire ne se fassent pas attaquer, pour qu'ils puissent voir le chat arriver et donc fuir comme il faut. Essayer aussi de le surveiller. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec le fait de garder un chat enfermé, mais quand il y a des oisillons qui sont en émancipation, il faut quand même essayer de le maintenir fermé pour pas qu'il aille les attraper, au moins le temps qu'il s'envole et puisse partir. Et puis après, de manière indirecte, pour la santé aussi de la population des chats, qui sont de façon surnombre, aider les associations locales à la stérilisation ou à des populations de chats pour justement arriver à contenir cette problématique. Qui est pas pour bien le préciser, c'est pas le chat le problème, c'est la gestion par l'humain. Et voilà, moi j'ai rien contre les chats, je les adore, j'en ai eu, mais c'est
vraiment
la problématique
quoi.
Gestion des chats.
Oui, il y a des campagnes
de stérilisation
à dire par la commune.
Voilà, mais quasiment toutes les communes proposent on peut le dire. Alors, là, c'est vrai qu'on a trop de chats et que c'est un carnage pour la biodiversité d'une manière générale, parce que ça s'attaque aux mantes religieuses, aux papillons, à tout quoi.
Oui, c'est vrai que le chat peut faire des dégâts quoi.
Oui, beaucoup, malheureusement. Ouais. Et après, vous avez les collisions vitres et les collisions avec les véhicules, du coup, qui sont sur la place 2 et 3 du podium, même quasi ex aequo, dans l'accueil des centres. Alors, bien sûr, selon les centres, leur position géographique, mais c'est aussi une grosse cause de mortalité, notamment les chocs avec les vitres, où là, la problématique, c'est arriver à casser l'effet miroir et bien faire identifier l'obstacle aux oiseaux pour limiter ces chocs.
Alors là, tout le monde a une baie vitrée ou des vitres chez soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a peint
C'est soit, alors, bah, la peint peut-être pas jusque-là, mais il y a des solutions parfois un petit peu, je vais pas dire artistiques, mais soit bah, quand on fait mettre une fenêtre, on peut soit la sabler, si on n'a pas envie spécialement de regarder à l'extérieur, si on veut juste de la lumière, comme ça, ça casse l'effet floutant. On peut acheter, si c'est déjà une vitre totalement transparente, claire, on peut acheter des films, il y a des films de qualité qui se posent, qui sont durables, qui permettent de flouter justement les vitres, et donc ça casse cet effet miroir. Des fois, on peut aussi mettre des objets derrière qui bougent ou qui, là aussi, cassent la transparence. Un rideau, il y a certaines personnes, même des bénévoles, qui ont essayé avec des fois des attrape-rêves très colorés qui, du coup, marquent bien l'obstacle. Et après, bon, il y a d'autres techniques, on va dire, de secours quand vraiment c'est la saison et qu'on l'a pas fait. Notamment, il y avait une étude américaine où ils avaient mis des bandes noires. Alors bon, au niveau esthétique, ça fait un peu barreau de prison, mais malheureusement, c'était la méthode la plus efficace où tous les 10 cm, on mettait un bande de scotch noir. Et du coup, ça a marqué l'obstacle et ça a baissé de 90% les collisions sur les vitres.
En plus, on peut les enlever au bout d'un moment parce que les oiseaux ne rentrent pas tout le temps dans les vitres toute l'année.
Non, encore heureux qu'ils ne le font pas constamment. Généralement, on a plus la problématique au niveau de la nidification. Quand ils sont dans les jardins à ce moment-là, et le plus gros étant surtout en hiver, puisque ben, la mangeoire, comme il se rapproche des infrastructures humaines, forcément avec la mangeoire, c'est là où il se cogne beaucoup plus facilement.
En fait, sur le site de l'LPO, on trouve beaucoup de choses. On trouve des solutions aussi, celles qui ont été dites, mais il y en a encore d'autres aussi, alors plus ou moins efficaces, mais moi, j'ai été contacté par une personne qui avait posé des volets en bois. Il y a un pic qui s'est amusé à faire des trous dedans. Donc, ça lui posait des problèmes à cette brave dame. Donc, il a fallu qu'on efface des petits aménagements pour éviter ça, quoi. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours aussi efficace. Mais bon, ça a marché parce que du coup, elle s'est plus plainte, cette dame. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut trouver de ça sur le site de la LPO en tapant LPO et puis le problème qu'on a, quoi. Et s'il n'y a pas ça, il y a toujours une personne qui peut y répondre en cherchant bien avec la Chaboy, c'est notre... siège social, oui, là où sont les permanents de la LPO Drôme Ardèche.
Adrien, peut-être on peut terminer en donnant peut-être des numéros utiles de centres de soins et puis j'avais envie de vous demander comment est-ce que ça fonctionne. C'est une association, ça doit coûter quand même un peu cher.
Eh ben oui, de toute façon tous les centres de soins donc sont des associations. Donc forcément, de cet été, on vit énormément par les dons de nos adhérents, les dons des personnes qui apportent les oiseaux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aider chacun de ces centres comme ça, au-delà de l'aide qu'on peut apporter bénévolement. Nous, à la LPO, au centre de soins de la LPO de Clermont-Ferrand, ben, on a lancé aussi un appel à dons, puisque ben, malheureusement avec les deux années Covid, avec les accueils qui augmentent de plus en plus, et comme on n'a pas de subvention au niveau régional, au niveau des États, on vit que par ça. Et là, on est dans le rouge, comme tous nos collègues aussi des autres centres de sauvegarde, malheureusement. Donc après, pour tout ce qui est Auvergne, on peut nous contacter, nous, au 07 76 32 59 77. Et après, de toute façon, pour le centre de l'Hirondelle, donc qui est dans le Rhône, mais qui gère la Drôme et l'Ardèche, eux, on peut les contacter au 04 74 05 78 85. Et après, bon, il faut être aussi compréhensif. C'est une période où c'est très dur de nous joindre parce qu'on est beaucoup sollicité. Donc, même si ça peut être frustrant de ne pas nous avoir et qu'il y a une urgence pour un oiseau blessé, voilà, merci d'être compréhensif et surtout de soutenir votre centre au lieu de lui jeter des pierres.
Merci Adrien Corsi, soigneur donc au centre de la LPO Clermont-Ferrand.
Merci beaucoup.
Et merci Gilbert aussi. Et
ben, merci à toi de nous inviter.
Ben, comme toujours, donc on se retrouvera pour parler nourrissage.
Voilà, par exemple. C'est très bien.
Belle journée à tous les deux.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Thank you. Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon vent sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs je mange les œufs de colombes. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui 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 cui, cui 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 cui, cui 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 cui, cui 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 cui.